بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير نسأل الله السلامة والعافية كالله رب العزة nous protège du contenu de ces ayats, de ces versets. Ikhwani fillah, nous remercions Allah Rabbul Izzah qui nous donne la possibilité de reprendre le tafsir de Sourate Al-Mulk. Inch'Allah, depuis qu'on a commencé Al-Mulk, il y a 3 séances, j'ai espoir que notre Rabb nous a donné tawfiq de lire yawmiyan, tous les jours Al-Mulk. C'est un des objectifs de l'étude de la sourate, c'est déjà de se rendre compte de l'importance, de la valeur de cette sourate. Comment est-ce que cette sourate va intervenir pour celui qui le lit régulièrement? Donc la première étape, c'est de faire l'intention ferme de lire Tabarakalladhi tous les soirs avant de dormir. La deuxième étape, dans la mesure du possible, c'est d'essayer de le mémoriser. C'est pas très long. Et si on le lit tout le temps, au bout d'un mois, Allahu a'lam, au bout d'un mois, à un moment donné, on finit par intégrer les versets. Et la troisième étape, c'est au fur et à mesure qu'on avance, on n'avance pas très vite, vous avez remarqué, un verset ou deux par vendredi, ben on essaie d'intégrer ce qu'on a essayé d'expliquer, bi'idhnillah. Et l'objectif final, c'est lorsque je lis Tabarakalladhi, ben j'essaie de me rappeler point par point ce qu'on a cité dans le tafsir afin que la lecture fasse un effet réel sur le cœur. La yastawi, sans le moindre doute, la lecture d'une personne qui ne fait que mémoriser Al-Mulk et la personne qui mémorise ou qui lit dedans et qui a compris le sens de le tafsir, wallahi al-azim, cette lecture n'a pas la même valeur. Cette lecture n'a pas la même valeur. Déjà, dès le début, on a été marqué par des versets très courts, mais qui montrent la puissance d'Allah. Ça, c'était au tout début. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaq, et ainsi de suite. Et ensuite, Allah dit, qu'est-ce qu'il a créé, la vie, la mort, et ainsi de suite. Mais déjà, on est marqué, le verset commence par la puissance d'Allah. Ça doit être un électrochoc pour le croyant. Quand le iman faiblit, quand nous avons du mal à nous réveiller à 5h05 pour Salat al-Fajr, et ça va devenir encore plus méchant bientôt, quand on penche vers les ma'asiyah, vers les péchés, quand on a du mal à se concentrer dans la prière, quand on a des problèmes, quelle que soit la nature des problèmes, et qu'on est en train de chercher des solutions à droite, à gauche, auprès des hommes, et qu'on oublie qu'on a notre Seigneur, la puissance d'Allah Azza wa Jal, tout d'un coup on se rappelle, ben, on a appris « Tabarak alladhi biyadihi al-mulk ay » Kullu shay biyadillah. Il n'y a rien qui est en dehors de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et en plus, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de tout. Ces versets sont puissants. Ça nous fait réaliser la grandeur, le qudrat d'Allah Azza wa Jal. C'est amplement suffisant pour ressusciter la foi du croyant, pour ressusciter son wa iyyaka nasta'in. Pour ressusciter son wa iyyaka na'bud. On commence. Son adoration d'Allah, sa dévotion, sa subhanallah, sa conviction qu'il se doit de donner sa vie pour Allah, faire l'adoration d'Allah toute sa vie, et qui dit adorer, dit faire de bonnes œuvres et éviter les péchés, et ça renforce son wa iyyaka nasta'in, sa confiance en Allah. Cette subhanallah, cette réaction, j'allais dire imanique, on invente des mots, cette réaction spirituelle, cette réaction de foi, qui est que lorsque j'ai une difficulté, lorsque j'ai besoin de quelque chose, lorsque j'ai des attentes, lorsque je crains quelqu'un ou quelque chose, je m'oriente directement vers Allah Azza wa Jal. Maintenant, comment est-ce que les cœurs vont s'orienter vers un Rabb, vers un Seigneur qu'on ne connaît pas?
et qu'on connaît juste qu'il a révélé le Coran au prophète alayhi salatu wa salam, il nous a prescrit 5 prières et 30 jeûnes de Ramadan et un hajj par an et la zakat si j'ai les moyens. Est-ce que ces a'mal, qui sont les piliers d'islam, hein, mais est-ce que c'est suffisant pour connaître Allah? Ne pensez-vous pas que si quelqu'un connaît Allah en fonction de ce qu'il nous a donné comme indication, comme piste pour le connaître, est-ce que si une personne a une idée de la grandeur, de la puissance d'Allah Azza wa Jal, ne pensez-vous pas que tout d'un coup, ces bonnes actions vont prendre un réel sens et que du coup, s'éloigner du haram deviendra quelque chose de tout à fait normal et que du coup, lorsque, si on a fait un péché par inadvertance ou par un moment de subhanallah, de jahala, d'ignorance, est-ce que vous ne pensez pas que là, immédiatement, on va avoir des remords, regretter, demander sincèrement pardon à Allah? Ben là, sans le moindre doute, à partir du moment où on connaît notre Seigneur. Si on ne connaît pas qui on adore, on pense qu'on suit Mufti, on suit le Fundi, on suit Dada, Nana, et le Imam, et ainsi de suite. On y est. On est dans le bon wagon, Inch'Allah. Mais est-ce que ces actions auront une réalité? Est-ce que je suis sûr d'être toujours dans le droit chemin, quelles que soient les circonstances? Est-ce que, lorsque je quitte mon petit confort de la Masjid al-Madina, des Lataniers, ou Nour al-Islam de Saint-Denis, où j'habite en face, où je traverse, je descends, je vais à la mosquée, et je vais dans un endroit plus éloigné, où il n'y a pas de lieu de culte, où pratiquer la religion est difficile, où on a du mal à trouver de la nourriture halal, est-ce que je vais rester aussi ferme dans ma foi? Ça, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Et le verset qu'on va essayer de voir aujourd'hui, il est tout simplement exceptionnel. On va dire que tous les versets sont exceptionnels, mais ce verset-là nous donne la description des vrais croyants. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghayb lahum maghfira wa ajrun kabir. Hada. Donc, avant d'arriver à ce verset, c'est le numéro 12. Donc, ikhwani fillah, on essaie de retenir. On demande à Allah Rabbul Izzah de nous donner la possibilité de comprendre et de retenir. De retenir, parce que ça c'est une qudra qu'Allah donne à qui il veut. C'est là un ni'ma, un bienfait de la part de notre Seigneur, de retenir les versets, mais c'est également un bienfait de pouvoir faire le lien en ce que nous mémorisons et la compréhension saine des versets. Que lorsque je lis, je réalise, je fais le lien avec le contenu, avec la réalité du verset, ça me permet d'avoir une dévotion, une concentration magnifique dans mes prières et même à travers ma lecture. Subhanallah. Il y a des fois où on entend un imam lire un verset, on est un peu éloigné, mais c'est presque comme si on a envie de s'arrêter, on écoute parce que c'est des versets qui sont magnifiques, qui sont puissants. Et on se dit que subhanallah, celui qui a révélé ces versets, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rien d'autre que Allahu Akbar qui sort de la bouche. Et quand on y fait là, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous donner la possibilité de tawfiq, de comprendre, et afin que lorsque nous lisons, nous arrivons à réaliser le contenu des versets. Il nous restait à compléter un verset ou deux versets concernant, c'est pas le sujet le plus gai, mais un verset concernant le Jahannam. Vous vous rappelez avant les vacances, on pourrait dire ça comme ça, on avait lu le verset que إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. C'est le verset 7. Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent. On avait expliqué les personnes, qu'Allah nous protège, la personne qui tombe dans le Jahannam, lorsque la personne atterrit au fond de l'enfer, le bruit qu'on entend, et que ce Jahannam, cette chaleur, on avait expliqué les 3 degrés de la préparation de l'enfer, 1000 années, 1000 années, 1000 années, jusqu'à ce que l'enfer devienne de quelle couleur? Noir et obscur, un feu qu'on ne peut même pas imaginer. Et là, on avait dit que, nasallallahu alayhi wa sallam, imaginez que le jour des comptes, vous voyez votre épouse jetée dans le Jahannam. Imaginez que le jour des comptes, vous voyez votre fils, votre fille, vous voyez votre frère, votre soeur jetés dans le Jahannam parce qu'ils n'auront pas été dans le droit chemin. N'est-ce pas là quelque chose de terrible? Et maintenant, on réalise mieux lorsqu'Allah Rabbul Izza fixe les priorités du croyant. « Qu'ou anfusakum wa ahlikum nara » Ikhwani fillah, ça c'est le plus important. Le plus important, c'est pas que je réussisse, que j'ai un tel salaire, j'ai un tel niveau de vie, que je devienne un jour propriétaire, que j'ai tel véhicule, que j'ai telle facilité. L'objectif, c'est pas que mes enfants deviennent avocats, deviennent médecins, deviennent chirurgiens, et ainsi de suite, qu'ils gagnent 4000 euros par mois et qu'ils aient une villa à Belle-Pied, ainsi de suite. On n'a rien contre les gens de Belle-Pied. Mais et ainsi de là, wallahi l'azim, wallahi l'azim. Ce n'est pas du tout là l'objectif de la vie de l'être humain. L'objectif, c'est que mes enfants, ma femme, mes enfants, mes proches grandissent de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et qu'il reste de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que l'ange de la mort reprend le rouh. Et quand l'âme est reprise et que cette âme reçoit la bonne nouvelle qu'il est accepté et agréé par Allah, il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus de compte en banque, on ne regarde plus si vous avez un compte à la poste ou si vous avez l'American Express ou si vous étiez Bac plus 10 ou alors rien du tout. Aham shay. Le plus important, c'est que dans ce cas, il y a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il y a l'obéissance au nom d'Allah et l'éloignement du haram des interdits. Ça, c'est un homme qui a réussi son sa'i. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Parce que inna sa'yakum la shatta, n'oublions jamais les versets qu'on a déjà lus. Inna sa'yakum la shatta. Chacun a son tracé. Chacun choisit son chemin. Et dis-le à ton voisin, chacun il choisit son chemin, chacun il prend une décision dans sa vie, chacun il a un point de départ. Et quand on prend un chemin, c'est qu'on a un objectif. L'objectif du croyant, il ne doit jamais perdre de vue « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ». Si on perd cet objectif, on oublie que ça c'est le maqsad de ma création, Wallahi al-Azim, on va s'éparpiller. On risque de s'éparpiller, de quitter et dinas sirat al-mustaqim. Et ce sirat al-mustaqim, ce droit chemin, on demande à Allah Azza wa Jal jusqu'à 70 à 75 fois par jour, en lisant Fatiha, demander à Allah de nous garder, rester dans le droit chemin. Jamais qu'on s'en éloigne. Ne perdons jamais pour objectif qu'on est là parce que وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Ça, ça fait partie des objectifs. Craignez ce jour où vous serez retourné, vous serez ramené vers Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui garde cette ayah en tête, qui le grave, je n'ai pas dit mettre des ta'biz comme les protecteurs, mais gardez le verset, gardez وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Vous croyez qu'il va s'amuser à aller dans Machal Leclerc à côté de Tati, regarder toutes les filles qui montent, qui descendent le samedi après-midi? Vous pensez qu'il a son temps paix d'aller regarder un match jusqu'à 1h, 2h du matin? Vous croyez qu'il a son temps paix à, je ne sais pas quoi encore, à rester devant une PlayStation pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps? Il a été créé pour faire les a'mal et il va, un jour quand il revient auprès d'Allah, il montre son livret d'action. On lui remet, dit voilà, reprends, prends ton livre. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba, toi-même lis, c'est toi le comptable. C'est ça, c'est pour ça qu'on a écrit Ikhwani fillah, c'est pour préparer ces maw'id, ces rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Je vous pose une question, une piste de réflexion il y a quelques jours. Imaginez que quelqu'un vienne chez vous, il prend votre ordinateur. Il va dire qu'on va faire une analyse complète. Tous les sites que vous avez visités ces 8 dernières années, toutes les photos, même qui ont été, je sais pas comment on appelle ça, les photos qui passent en mode flash, bref, on va voir est-ce que vous êtes quelqu'un de correct ou non. Personne dit non, attendez, parce que parfois on connaît, hein, il y a des petits liens et on fait pas exprès. Non, regarde pas, non, ça c'est ma vie privée. Comment la personne commence à angoisser, commence à transpirer, d'accord? Parce qu'il dit que bon, on n'est pas clean, hein, on n'est pas des anges non plus. Il y a des fois où ben on par curiosité, on clique sur un lien. Comment la personne angoisse? Il ne veut pas que quelqu'un regarde son ordinateur. Khalas, on comprend ça. Maintenant, imagine ta vie est confinée dans un livret. Et le jour de Qiyama, ce livret est secoué. Secoué dans le sens où on passe tout en revue. Il n'y a pas une seconde de ta vie qui n'est pas exposée. Comment est-ce qu'on angoisse? Et qui c'est qui examine ça? C'est pas un informaticien, c'est pas un comptable, un expert comptable. C'est le Seigneur des mondes, Malik Yaoumiddin, le maître du jour de la rétribution, celui qui juge, celui qui est l'aboutissement, c'est quoi? C'est soit tu vas dans le Jannah, soit tu vas dans le Jahannam, quelque temps à cause des péchés. L'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme, c'est une pression impensable pour un être humain. Il ne peut pas imaginer comment est-ce que ça va être des moments terribles. Hada, c'est pas ça. Limithli hada. C'est pour que nous remette notre livret de compte de la main droite. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour que devant le mizan, la balance, mes bonnes actions soient plus lourdes. C'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour passer ce sirat à la vitesse de l'éclair. C'est pour voir et contempler Allah Azza wa Jal de le Jannah al-Firdaus et avoir un rendez-vous hebdomadaire avec notre Seigneur et converser avec Allah. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est musulman, c'est pour ça qu'on accomplit de bonnes actions, c'est pour ça qu'on n'accomplit pas de péché, c'est pour ça qu'on est différent. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est pour ça qu'on a un mode de vie différent. Ce n'est pas du sectarisme de dire qu'on est différent. On est citoyen, il y a tout ce qui vient avec, mais on a une spiritualité. On ne peut pas se permettre ce que tout le monde fait. C'est pas parce que les gens ils font n'importe quoi que je fais n'importe quoi. Si vous voyez des gens prendre des cellules de bactéries malades, sida ou cancer ou ebola et tout, ils se piquent, ils mettent des trucs de malades, de fous. Elle vous dit que là tout le monde fait, je le fais. Dit ya akhi, ils comprennent pas le problème, qu'est-ce qui va se développer dans quelques temps. Moi je sais qu'est-ce qu'il y a derrière le zina, l'adultère. Moi je sais qu'est-ce qu'il y a derrière le riba, l'intérêt. Moi je sais qu'est-ce qu'il y a derrière la désobéissance envers les parents. Il y a le riba, le botan, le namima, l'hypocrisie, la médisance, la calomnie. Donc on ne peut pas, on peut pas faire comme tout le monde. On lisait un texte aujourd'hui concernant al-hubbu fillah. C'était vraiment magnifique. Concernant l'amour pour Allah. Dit quand quelqu'un, on est en sujet, mais c'est pas grave. Quand quelqu'un parle de ton frère en islam, c'est qui ton frère en islam, Nabil? Demande le nom de ton frère en islam de cette assemblée. Bilal et c'est tout. Tout le monde. Tous ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est innama al-mu'minuna ikhwa. Dis quand tu es dans une assemblée où les gens commencent, tu entends, et ça ils aiment bien ça, le fameux panchat, c'est un concept, ils commencent à parler des gens, il faut que tu prends la défense de ton frère en islam. Ça fait partie des devoirs du croyant. Tu ne dois pas laisser les gens, déjà ne participent pas. Et en commentaire, ça m'a dit qu'il y a des gens qui ont cette faiblesse d'esprit, que quand ils voient que on est en train de cuisiner une personne, en son absence bien sûr, c'est son dossier qui passe et on est en train de citer tous ses défauts, pour faire comme tout le monde, on va dire des choses, pour faire rire, pour participer, pour s'intégrer à la conversation. Et taqallah ya akhi, crains Allah. Tu ne peux pas te permettre de faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que les gens se précipitent vers un haram que tu te précipites vers un haram. Le mu'min recherche le contentement ridallah et non pas ridal makhlouq. Et non pas le contentement des hommes, des êtres humains. Wallahi al-azim, ce sont des choses simples. Ce sont des choses basiques. Mais on a besoin de recadrer. On a besoin de se recadrer en permanence. De ne pas oublier qu'on a un sirat mustaqim. Un droit chemin, et c'est ce chemin-là que je suis. C'est le chemin que le prophète alayhi salat wa salam nous a laissé, qui est basé sur la parole d'Allah et la sunna de l'Habib, alayhi afdalu salat wa atammu taslim, qui a été repris par le sahaba, qui a été transmis aux tabi'in, aux atba'i tabi'in, et se dit, il est parfait, il est complet, il est pour nous. On se doit de le mettre en pratique. Même si tout le monde nous pointe du doigt, même si tout le monde critique, même si tout le monde, ils ont des termes, des explications. Et attention, attention à ce discours qui vient souvent de notre communauté, des personnes qui ils vont dire que oui, mais ça c'est plus possible de nos jours, ça c'est dépassé, ça c'était avant. Allah il regarde pas ça, le cœur est propre. Tout ça c'est waswasa min ash-shaytan. Quand on parle aux personnes, il y a des fois qu'il y a des gens qui sont religieux, mais quand il s'agit de la tenue vestimentaire, on explique à une dame qu'une femme elle peut pas laisser un brin de cheveux dehors. Ça c'est haram, wallahi al-azim. Depuis la seconde où elle met le pied à l'extérieur, même si son maqsad, son but n'est pas de séduire, mais ça on est convaincu ça, même si son but n'est pas de séduire, mais le fait que son awra, le satar, ce qui doit être mastour, ce qui doit être couvert, est découvert, elle est dans la désobéissance d'Allah de la première seconde jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Mais combien de secondes, de minutes, d'heures, d'années de ma'asiyah elle aura à rendre compte le jour de Qiyama. Combien? Je ne parle pas de l'abandon des prières, je ne parle pas. Ce n'est pas une femme qui va tromper son mari, c'est pas. Voilà, Shay, sans le moindre doute, c'est des personnes qui ont un cœur. Parfois, il y a des gens qui ont un cœur ajib. J'en connais des gens qui ont une générosité, une grandeur d'âme qui dépasse la moitié de cette assemblée. Prêt à donner, prêt à accueillir, prêt à, subhanallah, faire khidma, prêt à donner de l'argent aux personnes démunies. Mais quand on parle de ce genre de sujet, pour eux, il n'y a pas débat, non. Ça, c'est une autre époque, on vit à une autre époque, on vit dans une société, c'est comme ça, il faut que le cœur soit propre. Il y a un fond qui est correct, mais il y a plein de pièges de shaytan. Pour ça, le mu'min, il s'accroche au Coran, à la sunna. Il ne s'accroche pas à sa conception du bien. Si tu t'accroches à ta conception du bien et du mal, tu fais ton dîn toi-même. Chacun fait son carré. Lui a dit, moi, il fait tandoori. Il dit, moi, il fait sauter. Lui, il fait, comment on appelle ça, à la chinoise, ainsi. Chacun fait ça. Et ça, c'est pas possible. Il y a une wahi, il y a un manhaj, il y a une façon de comprendre la religion qui était celle de sahaba. On se doit de le faire autant que possible. Demandez à Allah Azza wa Jalla de nous accepter pour ça. Donc, le verset qui nous restait à voir, donc c'était en rapport avec le Jahannam. Et vraiment, on comprend donc, comme on disait, le sens que qu'u anfusakum wa ahlikum nar, protégez-vous et protégez vos proches de l'enfer. Ça, c'est la priorité de waliyul amr, d'un père de famille. Fait en sorte que sa femme soit protégée du Jahannam, ses enfants, ses proches soient protégés du Jahannam. Ce qui veut dire leur donner l'enseignement qu'il faut. Et donner l'enseignement, ça ne veut pas dire on va enfermer tout le monde à clé, personne ne sort, il y a fitna dehors. Pas une secte quand même, d'accord ? C'est donner la connaissance religieuse, enseigner la foi avec targhib. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu à prêcher à des gens qui avaient atteint un degré de barbarie, qu'ils étaient prêts à prendre les filles, à les enterrer vivantes, à brûler les femmes veuves. Ils étaient prêts à se prosterner devant des pierres, ils buvaient, ils étaient ivres presque tout le temps. C'est des gens qui, ils étaient prêts à tuer si on touchait une personne de leur famille. C'est-à-dire, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi. Il y avait un bon côté, mais il y avait un décalage de le comportement. Ça n'a rien à voir avec le comportement de monsieur tout le monde, celui qui n'a pas la foi à notre époque. Mais malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam a agi d'une façon, avec une méthodologie, une sagesse, qui lui a permis de toucher leur cœur, de gagner leur cœur. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيرَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si le prophète avait parlé de façon rude, avait utilisé des termes, je donne une explication, ce n'est pas la traduction fidèle, des termes difficiles, il avait brusqué ces gens, personne ne l'aurait suivi. Le prophète les a amenés avec l'amour. On fait comprendre qui est Allah, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'obéir à Allah Azza wa Jal. C'est le discours qu'on doit avoir avec nos proches. Les ramener en parlant de l'amour d'Allah Azza wa Jal, en parlant du retour auprès d'Allah. Al-Iman Billah doit toujours venir avec Al-Iman Bil-Yawmil Akhir. Sinon ça ne marche pas. Toujours faire le lien entre croire en Allah et croire au jour du jugement dernier. Parce que si tu dis une personne veut croire en Allah, tu dis je crois en Allah. Les deux dents. Ok, mais il faut qu'il réalise qu'à un moment donné, on remonte, on revient vers lui et on rend compte. On va rendre compte de ce qu'on a accompli. Donc, si c'est pas juste un vœu pieux la foi, que j'aime mon Dieu, Allah est dans mon cœur. Non, ça c'est des discours, ça c'est des paroles. Mais après, il y a les ordres, les interdits, il y a un mode de vie. Donc, qu'Allah nous protège. Donc, parmi les dernières descriptions de ce couplet de versets concernant le Jahannam, c'est... Est-ce qu'on est là? Takalu tamayyazu min al-ghayd. Alors ce verset, on est au verset 8. Au verset 8, hadha. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Ah, un peu difficile de comprendre le sens de ce verset en français. On parle du Jahannam. Que le Jahannam est prêt à exploser, à éclater de rage et de colère. Les Mufassirin disent que le Jahannam est furieux contre les personnes qui sont jetées. En plus, comment lorsque ces personnes sont jetées, c'est avec une telle humiliation. Et lorsque le Jahannam les récupère, le Jahannam se déchaîne sur eux. Il y a des hadiths déjà, mashallah, le frère va saluer tout le monde. Barakallah fik. Il y a des hadiths concernant le mahshar qui décrit que le Jahannam, il est retenu par des salats. Même moi, tu salues. Salam alaikum. Le Jahannam est retenu par des chaînes et le jour de Qiyama, le Jahannam a envie de se déchaîner. Et il y a ce qu'on appelle les zafirs. Lorsque le Jahannam va souffler et il y aura une projection de lahib, d'étincelles et de feu du Jahannam. Et là, dans Ibn al-Izz al-Hanafi, et Mashallah, le frère nous salue, il parle. Mashallah, je croyais que tu allais rester. Khair, Inch'Allah. Il dit que on a eu au moins des péchés tombés en faisant salam. C'est-à-dire qu'il n'amène pas ses copains. Donc, subhanallah, le hadith décrit comment est-ce que l'ensemble de la création va trembler de peur lorsqu'ils vont voir le Jahannam, subhanallah, se rapprocher. Et donc, les Mufassirin, il y a pas mal de versets qui décrivent la fureur du Jahannam en ce jour. Et vous connaissez, c'est un verset que souvent on lit et qu'on entend. Et lorsque les gens sont jetés dans le Jahannam, fataqulu hal min mazid. Le Jahannam demande à Allah envoyer encore, encore et encore des êtres humains. Parce que l'enfer a besoin de punir, il veut sévir contre chaque personne qui a osé désobéir à Allah Azza. C'est-à-dire la fureur de l'enfer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. L'enfer, ce n'est pas un feu inanimé. L'enfer a une vie. L'enfer parle. C'est pas comme tu allumes un feu et que tu peux l'éteindre ou le feu c'est une réaction chimique, d'accord? Mais l'enfer c'est pas une réaction chimique, c'est qu'une créature d'Allah qui existe et qui parle et qui demande. Et les Mufassirin disent également, si on fait des rapports avec les autres versets, que lorsqu'Allah Azza wa Jal il explique Subhanallah, qu'on vous fait comme wahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara, parce qu'Allah Rabbul Izzah donne la description des gardiens de Jahannam, عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم. Le verset décrit des anges, je traduis hein, le sens du verset, les anges des anges qui sont d'une rigueur et qui sont sans pitié. Les anges du Jahannam n'ont strictement aucune pitié de leur cœur pour les gens qui sont dans le Jahannam, parce qu'ils savent que si ces gens sont là, c'est par ordre d'Allah et c'est parce qu'ils n'ont pas obtenu le pardon d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un chronomètre pour terminer à 25 minutes. C'est l'objectif de la soirée, Inch'Allah. Donc voilà, description, ce wasf du Jahannam, et qu'Allah nous protège. Donc peu s'en faut que de rage, il n'éclate. Et lorsque les gens sont jetés dans le Jahannam, kullama ulqiya fiha fawjun, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que vous faites là. Personne n'est venu vous expliquer qu'il faut adorer Allah. Est-ce qu'il y a personne qui vous a expliqué c'est quoi le dîn? Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Et là aussi, en combinant les versets, on réalise que pour chaque peuple, Allah Azza wa Jal a envoyé des nazirs, a envoyé des prophètes pour propager la religion. Ça peut être le prophète qui parle, ça peut être également son message qui est perpétué. Son message qui est transmis comme nous transmettons le message et qui doit normalement arriver partout. Et ça, c'est notre responsabilité. Après, il y a de Massa, il bien sûr, y a des questions qui ont été posées. Qu'en est-il de quelqu'un qui habitait dans une région, il n'a jamais entendu parler de l'islam? Les savants ont donné des réponses et ainsi de suite. Mais il faut bien comprendre quelque chose, parce que ce genre de verset fait réagir parfois des gens. Oui, mais il y a quelqu'un qui habite en Irlande ou en Écosse, dans un petit village, il n'a jamais entendu parler de l'islam, ils ont grandi dans une culture, comment est-ce qu'Allah va lui punir et tout? Il y a des réponses des savants pour ça. Mais avant d'aller dans ces masa'il, ces raisons, ces explications, ainsi de suite, il faut qu'on réalise une chose, c'est qu'avec notre esprit logique, on ne comprendra jamais complètement la hikmat d'Allah Azza wa Jalla, la sagesse d'Allah. Ne comptez pas sur le cerveau humain pour comprendre « Ah, c'est comme ça qu'Allah a organisé sa création, maintenant c'est cohérent, maintenant je comprends. » Ce que tu comprendras, jamais. Autrement déjà, tu ne comprends pas comment est-ce que le papa du Prophète et sa maman n'avaient pas iman. Pas comprendre. Comment est-ce possible qu'Abu Lahab encore comprend, c'est un méchant des méchants, mais Abu Talib, il n'y avait pas plus doux, plus gentil que lui. Il a pris soin de Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam quand il était petit, orphelin, il l'a soigné, il l'a nourri, il l'a gardé auprès de lui, il l'a protégé, bi'idhnillah. Allah l'a choisi pour protéger son prophète, alayhi salatu wassalam. De son vivant, personne ne pouvait faire du tort, du mal à Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lorsqu'il est mort, c'est là que notre prophète a connu des situations encore plus difficiles. C'est ce qu'on appelle l'année de la tristesse avec le décès de son épouse Khadija, radiyallahu anha. Comment est-ce que Abu Talib, il est sur son lit de mort? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Oh mon nom, qul, la ilaha illallah, ça te protégera du Jahannam. Et j'intercèderai pour toi auprès d'Allah. Dis qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah. » Il s'apprête à dire, et les zu'ama, les chefs de tribu, viennent dire « Ala millati abikum, on reste ferme. Nous sommes héritiers d'une culture, nous sommes des adorateurs d'idoles, on reste dessus, ya Abu Talib. » Et Abu Talib, il dit oui, sur notre religion, sur la religion de nos ancêtres, il meurt. Et il n'a pas la ilaha illallah. Et le prophète, il a tristé, mais il sait que c'est là la décision d'Allah. Donc, si on voulait tout comprendre avec notre logique, dès le départ, on ne comprendrait pas les événements de la Sira. Pourquoi la maman du prophète meurt sans la foi avant que son fils devienne prophète? Pourquoi est-ce que le prophète n'a jamais connu son papa et que son papa meurt sans la foi parce qu'il n'y avait pas encore iman? On n'a pas, Allah Rabbul Izzah ne nous demande pas de tout comprendre, de tout décrypter. Par contre, si tu fais partie des gens qui ont eu la foi, shkurullah, remercie Allah. Tu es né musulman, ushkurullah. Tu as eu la foi durant ta vie, ni'ma min Allah. qui t'a tiré du dhulumat ila nour, de l'obscurité vers la lumière. Donc première réaction, remercie Allah. Avant de philosopher, avant d'aller loin, pourquoi je pense que, après maintes réflexions, il me passe par l'esprit que théoriquement cette règle devait être revue. On ne t'a pas demandé de philosopher. Tu as la foi, tu as la ilaha illallah de ton cœur. Remercie Allah Azza wa Jal. Il y a des gens qui ont plus de qualités que toi. Ils ont un meilleur comportement que toi. Il y a des gens qui donnent leur argent pour la Croix-Rouge, pour l'OMS. Non, l'OMS, c'est quoi? Les médecins? D'accord, c'est pas un club en bas de Joinville, ça, non? Excusez-moi. Ils donnent, ils sont prêts à faire plein de choses. Ils n'ont pas la ilaha illallah dans leur cœur. Haba am manthura. Les actions ne seront d'aucune utilité le jour de Qiyam. Deuxième réaction, tu as ce iman. Is'alullah. Demande à Allah de te garder le droit chemin. Enfin, ça me parle et explique. Il y a des gens qui, durant toute leur vie, accomplissent des actions, des gens du Jannah. Avant de mourir, ils accomplissent une action des gens du Jahannam et ils atterrissent dans l'enfer. Qu'Allah nous protège. Personne n'a la garantie de mourir avec la foi. C'est pour ça qu'à chaque prière, la Fatiha est rukn, obligatoire dans chaque rak'at, et qu'on demande ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est le vœu le plus cher. Vous allez au Hajj, vous allez au Umrah, vous arrivez dans la Kaaba, vous êtes à Arafat, demandez à Allah ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, restez dans le droit chemin, la mort avec iman, mourir avec la ilaha illallah, hada aham shay. Avant de penser à telle chose, ça c'est la chose la plus importante, ce cadeau que Abu Talib n'a pas eu, alors qu'il a fait plus de khidmat que l'ensemble de l'humanité aurait pu faire pour Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième réaction, tu as la foi, tu demandes à Allah de garder le droit chemin, maintenant invite ces gens. Tu es en train de dire, oui, mais eux, khalas, rouh, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mu'izati al hasana. Invite ces gens vers le droit chemin par tes paroles, mais également par ton akhlaq. Tu philosophes, dans la rue, tu te comportes comme un bandit. Ton comportement, il est comme un voyou dans la rue, et puis tu viens philosopher sur la religion. Le akhlaq, le siratul rahim, la relation avec les proches, ainsi de suite. Niet, il n'y a rien du tout. Et puis on va penser, on va philosopher, si on devient des islamologues tout d'un coup. Là, wallah. Soit un motif de guider pour ces gens et demande à Allah Azza wa Jal la hidayah, la foi pour ces gens. On va s'arrêter à là, inshallah. Et justement, lorsque on leur pose la question, ils reconnaissent. Et ils disent, tafsir basi, law kunna nasma'a. Ou n'aqil ma kunna fi ashab as-sa'id. Si seulement on avait écouté, si seulement on avait réfléchi, ben on ne serait pas parmi les gens du as-sa'id, du jahannam, en ce sens les gens de l'enfer. Et nous fassines disent que qu'est-ce qu'ils veulent dire, si seulement on entendait, on écoutait, c'est-à-dire si on écoutait de façon intelligente. Ou n'aqil, si on réfléchissait mais de façon intelligente. Dit que donc l'intelligence, c'est pas d'avoir un QI énorme, d'être ingénieur ou autre chose. Le plus important, c'est d'avoir une intelligence qui nous permet de reconnaître notre Seigneur, de voir le droit chemin. Donc, on ne juge pas la valeur des gens par rapport à leur connaissance du monde, parce qu'ils connaissent ce qui n'a pas plus de valeur que l'aile d'une moustique pour Allah, d'une mouche pour Allah Azza wa Jal. Donc, celui qui a un bac plus 9, bac plus 15, ne le voit pas comme un héros. Il maîtrise les sciences, ok, mais ce dunya ne vaut pas plus que l'aile d'une mouche pour Allah Azza wa Jal, et lui, il maîtrise ça. Il y a de quoi être fier? Il y a de quoi être fier quand on connaît notre Seigneur, on connaît les qualités d'Allah, les noms, les sifat, Allah Azza wa Jal, et on connaît comment suivre le droit chemin. Ça c'est Al-Izzah, ça c'est l'honneur. Hada. Hada. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. On va terminer en conclusion avec un hadith qui nous permettra d'emboîter pour la prochaine fois une petite piste de réflexion. Lorsqu'on parle de ces gens qui ont la crainte d'Allah en permanence, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, une histoire, un hadith, un sahaba, Thabit radiallahu anhu, il rapporte de Anas radiallahu anhu, dit que, ô prophète d'Allah, inna nakunu indaka ala halin, fa idha faraqnaka kunna ala ghayri. Ô prophète d'Allah, quand on est auprès de toi, on sent la foi. Mais quand on retourne auprès de nos familles, de nos proches, il y a une diminution, c'est plus pareil. Pourquoi ils ont peur? Qu'est-ce qu'ils craignent? L'hypocrisie. Ils craignent que là, ils ont la foi, et quand ils retournent chez eux, ils oublient, ils commencent à plaisanter et tout. Ils craignent que peut-être de le fond, on n'est pas vraiment croyant. Ça, c'était leur souci permanent. Est-ce qu'Allah est content de moi? Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce que mon iman a atteint un degré suffisant pour que Allah soit satisfait de moi? Pour que, si l'ange de la mort reprend mon âme, Allah m'accepte. Hada hamshay. C'est ce qui est importé aux sahaba et rien d'autre. Ils avaient plus de soucis pour leur foi que nous on a pour notre compte en banque. Quand on est le 30 du mois, on va vérifier 10 fois par jour, est-ce que mon salaire a été versé? Est-ce que je suis crédité parce que j'ai des chèques qui passent telle date et tout? Eux, leur souci permanent, c'était est-ce que mon iman est bon? Est-ce que la foi est correcte? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pose la question aux sahaba, kayfa antum wa rabbukum? Comment est-ce que vous concevez votre Seigneur? Quelle est votre relation avec Allah? Il dit, Allahu Rabbuna fi sirri wal alaniya. Allah, c'est notre Seigneur, quand on est devant les gens, mais également en secret. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, laysa dhalikum an-nifaq. Ne vous inquiétez pas, mes sahaba, vous avez la foi, ça, c'est pas l'hypocrisie. Les sahaba, ils ont donné la réponse que le prophète voulait, qu'en toutes circonstances, on pense à Allah. Jamais on oublie notre Seigneur, jamais on ne fait de péché, que ce soit devant les gens ou en privé, même si on n'est plus au top de la foi, mais on garde notre Seigneur dans notre cœur, c'est-à-dire une expression, on a muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, jamais on oublie Allah, même si personne ne nous voit. Le prophète dit, ça, c'est preuve de iman, et on va développer ça inshallah la prochaine fois. Ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.